Chapitre 29, partie 2.
Des dragons ! Ce sont des dragons !
Cria quelqu'un, déclenchant un nouveau vent de panique. L'une des créatures descendit en piqué vers le manoir, se redressa juste avant de s'écraser sur le toit de tuiles, passa au ras de la foule d'invités qui se baissa d'un même mouvement et se posa au bout de l'allée de gravier blanc, entre l'imposant portail en fer forgé et le socle de la grande statue d'Armand Malfoy, qui s'était mystérieusement volatilisé dès que les premiers cris de terreur avaient retenti. Le sol trembla lorsque les pattes puissantes de la créature rencontrèrent le sol, soulevant des gerbes de terre et de gravier blanc. La deuxième créature atterrit derrière la première, en battant de ses énormes ailes, poussant un rugissement qui résonna pendant plusieurs secondes dans le silence de la campagne environnante et qui força la plupart des invités à plaquer leurs deux mains sur leurs oreilles. Narcissa et son père s'arrêtèrent malgré eux pour admirer le spectacle. Il s'agissait en effet de dragons, il n'y avait aucun doute possible. Leur peau sombre et brillante semblait faite de roches, tout comme les crêtes écaillées et acérées qui recouvraient leur dos, l'arrière de leurs pattes et leur couronnaient la tête. Leurs griffes puissantes frappaient le sol avec un bruit de tonnerre et leurs ailes immenses, semblables dans leur structure à celles des chauves-souris, peinaient à trouver leur place dans un endroit aussi restreint. Les écailles du premier portaient des reflets verts. Il portait une pierre sur le front de la même couleur et son poitrail et ses deux grands yeux étaient tout aussi verts. En revanche, le deuxième arborait des reflets, un poitrail, une pierre sur le front et des yeux d'une belle couleur violette. Il n'avait rien en commun avec les reptiles séquestrés et mutilés qui se trouvaient à l'arrière du manoir des Malfoy. Ils étaient en pleine santé, gonflés de vigueur et de puissance. Aussi effrayants fussent-ils, Narcissa ne parvenait pas à détacher son regard de ces deux dragons et de leurs mouvements étonnamment souples et majestueux. Le spectacle de cette peau rocheuse qui se mouvait avec fluidité et glissait sur leurs muscles puissants avait quelque chose de fascinant. Narcissa vit plusieurs baguettes se pointer sur eux et s'interposa aussitôt.
« Arrêtez ! Arrêtez !»
ordonna-t-elle.
« Poussez-vous, Narcissa !» lui lança la voix autoritaire d'Abraxas Malfoy. « Il faut neutraliser ces monstres !»«
Non, regardez un peu qui est assis dessus !»
Un rire joyeux et inimitable vint appuyer la remarque de Narcissa. Et au milieu de cet enchevêtrement de muscles et d'écailles, sur le dos du dragon vert qui avait atterri le premier, elle distingua enfin la silhouette élancée de Vera Goyle et sur le deuxième, celle de son mari Fergus. Vera administra une petite tape sur le dos de sa monture. Narcissa se demanda comment une créature aussi énorme pouvait ressentir un signal aussi négligeable qu'une petite tape dans le dos. Mais elle vit avec stupéfaction le dragon courber l'échine et s'incliner docilement sur le côté. Vera glissa avec agilité le long de son flanc, atterrit sur la racine de son aile et sauta sur le sol, suivie par un petit raveluc vert ailé qui vint se poser sur son épaule. Vera prit un instant pour caresser la tête de sa gigantesque monture, qui se frotta contre elle avec affection, en manquant de la faire tomber. Puis Vera releva sur son front ses grosses lunettes d'aviateur, balaya du regard la foule d'invités tétanisés, et leur adressa un charmant sourire assorti d'une profonde révérence. « Veuillez nous excuser pour notre léger retard, » déclara-t-elle en se redressant, avant de s'avancer dans l'allée de gravier blanc. Évidemment, il n'était venu à l'esprit de personne de reprocher quoi que ce soit aux deux époux Goyle. Narcissa ne put résister à l'envie de courir à la rencontre de Vera. Elle se détacha donc de la foule d'invités et alla lui sauter au cou, au milieu des chaises et des tables renversées.
« Ma filleule adorée !» dit Vera en la serrant dans ses bras.
« Comment vas-tu ? »
« Parfaitement bien, surtout maintenant que tu es là !» soupira Narcissa.
Daisy accourut à son tour, l'air aussi éberlué que tous les autres.
« Maman !» s'exclama-t-elle. « Ils sont magnifiques »
« N'est-ce pas ? Ce sont des rocheux irlandais. C'est une espèce inoffensive, mais tellement attachante !»«
Ils ont tout juste 2 ans. Ils viennent d'atteindre leur taille adulte. »
« Alors, tous ces allers-retours en Irlande, ça n'était pas seulement pour étudier des dragons ?» sourit Daisy.
« en effet, » admit Vera.
Lors de notre première expédition, en nous promenant près de la falaise, nous avons trouvé 2 dragonneaux,
gros comme des petits chiens et surtout très mal en point. Leur mère a dû égarer leurs œufs dans une grotte ou bien faire une mauvaise chute dans les falaises. Enfin, quoi qu'il en soit, nous les avons soignés et nourris. Et au bout de quelques jours, ces petits chérubins étaient remis sur pied et ne voulaient plus nous quitter. Narcissa trouva amusant de qualifier de « petits chérubins » des créatures qui étaient capables de réduire en cendres des villes entières. Mais les goy avaient l'habitude de donner des surnoms affectueux à n'importe quel animal, même si celui-ci était repoussant ou dangereux. « Mais pourquoi avoir fait autant de mystères au lieu de m'expliquer ?» demanda Daisy. Nous voulions te faire la surprise, ma chérie. Je voulais te raconter tout ça cet été, mais lorsque nous avons appris que Narcissa allait se marier, nous avons décidé de garder le secret quelques mois de plus. Vera se retourna vers les deux dragons. Fergus Goyle avait visiblement du mal à les maîtriser. Les deux dragons remuaient dans tous les sens. Le dragon vert était en train de grignoter affectueusement sa cape, et le mauve venait de carboniser le bout de son chapeau pointu. « Comme ils sont beaux !» dit Vera avec affection. « Oh oui, vraiment superbes !» dit une voix glaciale derrière leur dos. Abraxas Malfoy s'approchait d'elle en s'appuyant sur sa canne, enveloppée dans un long manteau noir destiné à camoufler sa maigreur. Comme d'habitude, son manteau était fermé jusqu'au col par deux rangées de boutons argentés, et le blason de la famille Malfoy étincelait sur sa poitrine, brodé de fils d'argent. « Abraxas !» le salua joyeusement Vera. « Tu as daigné sortir de ton donjon ?»« J'y suis bien obligée, puisque mon fils se marie. » Narcissa n'avait jamais entendu quelqu'un parler de mariage avec un ton aussi dépourvu de joie. En le voyant s'approcher de Vera, elle fut frappée par le contraste saisissant qu'il y avait entre elle et Abraxas. Ce dernier semblait sortir d'une photographie en noir et blanc, alors que Vera portait une longue cape de cuir violet et un pantalon de plumes orange. L'éclat cuivré des longs cheveux de Vera et les innombrables taches de rousseur qui constellaient ses joues rosies par le vent semblaient narguer la pâleur désolante d'Abraxas Malfoy et les cheveux blancs comme neige qui parsemaient son crâne. Les voir dialoguer côte à côte rendaient la froideur d'Abraxas encore plus glaçante qu'à l'accoutumée et l'exubérance de Vera involontairement provocante. De sa canne, Abraxas désigna les deux dragons. « J'imagine que tu es fière de toi, Vera. Tu as brillamment accaparé toute l'attention sur ta petite personne. Ce jour appartient aux deux mariés, et ça n'est pas aux invités de se donner en spectacle. »«
Moi ? Me donner en spectacle ?» protesta Vera sur un ton enjoué.
« Allons, Abraxas, ce n'est pas du tout mon genre. »
« Sais-tu qu'il est absolument interdit d'apprivoiser des dragons et a fortiori de les chevaucher ?» As-tu conscience du nombre considérable de lois que tu as enfreintes en venant jusqu'ici sur le dos de ces deux monstres ?
Abraxas, mon bon ami, tout le monde sait que les règles sont faites pour être transgressées, comme les portes sont faites pour être franchies.
Sans compter tous les territoires moldus que tu as sûrement survolés pour venir jusqu'ici. As-tu une idée des ennuis que tu vas nous attirer avec tes idioties ?
Ne t'en fais pas pour ça. Je leur ai jeté un sortilège de désillusion. Les moldus n'ont vu aucun dragon survoler leur village. Seulement deux avions de chasse.
Si quelqu'un doit avoir des ennuis après ça, ce ne sera certainement pas nous, mais la base militaire voisine. Et elle sourit encore plus largement, très fière de sa petite combine. Derrière elle, les dragons se désintéressèrent de son mari pour trouver d'autres distractions. Le dragon vert se mit à renifler l'if le plus proche et celui-ci dut lui chatouiller les narines car il cracha une énorme gerbe de feu qui enflamma l'arbre et le transforma en une gigantesque torche. Quant au dragon violet, que ses acrobaties semblaient avoir mis en appétit, il se glissa vers la lisière de la forêt. Narcissa eut tout juste le temps d'apercevoir l'antilope aux cornes d'or qui broutait tranquillement, ravi d'être débarrassé de la ribambelle d'enfant qui lui avait couru après tout l'après-midi.
« Oh non, la bibiche !»
cria une petite voix aiguë parmi les invités. Avec une agilité et une rapidité stupéfiantes, le dragon fondit sur l'antilope, ouvrit sa gueule et la referma d'un coup sec sur le pauvre animal. Il mastiqua pendant quelques secondes, puis recracha fièrement quelques ossements parfaitement nettoyés et plusieurs enfants se mirent à pleurer.
« Oh, vraiment désolée !» dit Vera en se retenant de rire.
« Je te prêterai Albert, il fera repousser ton arbre en un rien de temps. En revanche, pour l'antilope, j'ai bien peur qu'il ne soit trop tard.
Assez ! La coupa Abraxas. Tu vas repartir immédiatement en emmenant ces deux monstruosités avec toi. J'en ai assez de tes fanfaronnades, Vera.
Mais ce n'est pas une fanfaronnade, protesta Vera d'une voix forte. C'est un cadeau de mariage.
Abraxas tressaillit de surprise et un murmure d'excitation parcourut l'assistance.
Un cadeau ? Répéta Narcissa incrédule.
Un pour ma fille, un pour ma filleule, affirma Vera.
Balor est pour Narcissa, dit Vera en désignant le dragon vert qui avait brûlé l'if.
Et Ramia est pour Daisy, ajouta-t-elle en désignant la dragonnette violette qui avait mangé l'antilope aux cornes d'or.
Venez, mes chéris, je vais vous présenter vos nouveaux compagnons.
Elle prit Daisy et Narcissa par les épaules et les entraîna vers les deux dragons, sous les regards éberlués de l'assistance, tandis qu'Albert tirait la langue à Abraxas Malfoy.
« Maman, c'est vrai ?» murmura Daisy au comble de l'excitation. « Ils sont pour nous ?»«
Absolument !»
Narcissa tendit sa main à Lucius, de peur que celui-ci ne se sente mis de côté. Mais il n'avait pas l'air d'être jaloux du tout, même s'il jetait des regards inquiets à son père qui continuait de les fixer.
« Je ne pensais pas que tu les amènerais aujourd'hui, Vera, » dit-il légèrement embarrassé. « Je m'attendais à un cadeau, disons plus, confidentiel. »
« Tu étais au courant ?» s'étonna Narcissa stupéfaite.
« Bien sûr qu'il était au courant !» rit Vera.
« Je voulais m'assurer que ça te plaise !»«
Ce sera le tien aussi, » assura Narcissa à Lucius. « Nous pourrons nous en occuper ensemble. »«
Avec plaisir !» sourit ce dernier. « Mais pas un mot à mon père, ou bien il se l'appropriera en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. S'il pense que le dragon n'obéit qu'à toi, il osera peut-être moins s'en approcher. »
« Je lui expliquerai que les rocheux irlandais n'obéissent qu'à une seule personne, » promit Vera.
« Et puis, ils seraient rapidement déçus de leur utilité. Ce sont des bêtes totalement inoffensives. »
Daisy, à son tour, s'inquiéta de blesser un autre orgueil masculin. « Edgar ne risque pas d'être jaloux ?»«
Oh, tu sais bien, ton frère a une peur bleue de tout ce qui est plus gros que lui, » répondit Vera.
« J'en ai déjà discuté avec lui, et il a admis qu'il serait incapable de s'en occuper. »
« C'est plutôt Carla qui va en crever de jalousie, » remarqua Narcissa en souriant malgré elle.
« C'est ce qui m'a convaincue d'agir ainsi !»
rit Vera avec un clin d'œil appuyé. Sur l'épaule de Vera, Albert mima un haut-le-cœur et fit une horrible grimace. Narcissa savait depuis longtemps que Vera ne portait pas sa future belle-fille dans son cœur, et son petit Raveluc l'avait très bien compris. Au fur et à mesure qu'il s'approchait des dragons, il sortait progressivement du champ d'action du sortilège de réchauffement que Lydélise avait installé autour du manoir et Narcissa commença à frissonner sous sa robe de dentelle. En apercevant Vera, les deux dragons cessèrent d'embêter Fergus Goyle et de mâchouiller les branches de l'if calciné et se rassemblèrent autour d'elle.
« Venez là, mes petits anges. Narcissa, tu commences. »«
Comment ça ?»«
Alors, viens ici. » ordonna Vera d'une voix douce au dragon vert. Le dragon au reflet violet s'écarta et le vert s'approcha majestueusement. Il replia ses pattes et inclina sa tête vers eux jusqu'à ce que sa mâchoire inférieure effleure le sol et que ses grands yeux verts se trouvent à la même hauteur que ceux de Narcissa, qui fut surprise de constater que le regard du dragon ne portait aucune trace de malveillance et qu'il était étonnamment espiègle et curieux. Lorsque le dragon respirait, Narcissa pouvait sentir son souffle brûlant chasser l'air glacé qui l'entourait et lui ébouriffer les cheveux.
« Tu vois la bosse qu'il a entre les deux yeux ? Vas-y, caresse-le à cet endroit. N'aie pas peur. »«
Je n'ai pas peur, » répondit aussitôt Narcissa.
Et c'était vrai. Le dragon ne manifestait aucun signe d'agressivité et Narcissa ne ressentait aucune appréhension. Avec un geste lent mais assuré, elle tendit la main vers la bosse verte qui se trouvait entre les deux yeux du dragon. Au vu de l'aspect rocheux de la peau de la créature, Narcissa s'attendait à toucher quelque chose de râpeux et d'acéré. Mais à sa grande surprise, la peau du dragon était douce comme du velours et chaude comme le perron de marbre noir à la fin d'une journée ensoleillée. Dès que sa paume entra en contact avec la bosse, Narcissa ressentit quelque chose d'étrange. Il lui sembla que tous les sons autour d'elle s'étaient évanouis,
que Lucius, Daisy et Vera se trouvaient derrière un mur d'eau et qu'elle était absolument seule avec le dragon. Des battements de cœur résonnaient à ses oreilles, mais ce n'étaient pas les siens. Narcissa en était certaine. Ils étaient plus lents, plus profonds. Elle décrivit des petits cercles sur la bosse et se plongea dans les yeux du dragon, de grands yeux verts et mouvants, avec des pupilles verticales. Immédiatement, elle eut l'impression que Balor ressentait tout ce qu'elle ressentait, de la texture pierreuse des graviers sous ses pieds, à la main de Lucius sur son épaule, en passant par toutes les joies et toutes les peines qui livraient bataille dans son cœur. Et aussitôt, l'angoisse qui l'étouffait depuis le début de la journée desserra son étreinte, comme par magie. « Il est magnifique !» murmura-t-elle émue. Le dragon émit un bruit qui ressemblait à une exclamation joyeuse, et il agita sa queue puissante avec enthousiasme, écrasant au passage une des colonnes de pierre qui encadrait le portail et arrachant l'un des battants. « Oups !» s'exclama Narcissa en retirant aussitôt sa main. Le dragon s'ébroua, manifestement ravi d'avoir trouvé une nouvelle maîtresse. Il releva légèrement la tête et donna un coup de langue vigoureux à Narcissa, une langue rugueuse et puissante qui déchira sa robe de dentelle et lui érafla le bras. « Balor !» gronda Vera. « J'avais dit pas de l'échouille !» Le dragon émit un gémissement désolé et sur l'épaule de Vera, Albert fit les gros yeux et bomba son torse pour l'impressionner. Lucius se précipita pour examiner le bras de Narcissa, mais elle le rassura aussitôt. Elle n'éprouvait aucune douleur, simplement une sensation de chaleur intense là où Balor l'avait éraflée. « Bon, c'est très bien !» s'exclama Vera en lui tapant sur l'épaule. « Et maintenant, monte sur son dos. Pardon ?»« Si, 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 j'insiste. C'est essentiel que tu l'apprivoises complètement. » Comme si Balor avait compris ses paroles, il se tourna sur le côté et inclina son cou vers Narcissa.
« Est-ce bien prudent ?» demanda Lucius, qui ne semblait pas enchanté par l'idée de voir Narcissa grimper sur le dos d'une créature qui était capable de la tuer d'un simple faux mouvement. Narcissa regarda le flanc du dragon, indécise. Monter sur le dragon ne lui paraissait pas une idée très raisonnable. Elle pourrait déchirer sa robe ou bien se tordre la cheville. Mais avait-elle vraiment envie d'être raisonnable ? « Pense à la tête de Carla et de Juliette quand elles te verront là-haut !» lui souffla Daisy. Cette perspective fit pencher la balance du côté de l'intrépidité. Narcissa se débarrassa de sa longue traîne et de son voile et s'approcha de Balor qui poussa une exclamation excitée. Elle empoigna deux piquants qui hérissaient son flanc, retira ses escarpins, cala son pied dans l'étrier que formait Vera avec ses mains et se hissa sur l'aile du dragon qui semblait mobiliser toute sa concentration pour rester sagement immobile. Elle adressa un sourire rassurant à Lucius qui n'en menait pas large. Puis elle se tourna vers le dos du dragon au-dessus d'elle et aperçut un endroit où sa crête acérée s'interrompait, un endroit idéal pour s'asseoir confortablement. Elle effectua le reste de l'ascension sans difficulté et s'installa à califourchon sur le dos de Balor. La morphologie du dragon offrait des prises très confortables. Les pieds de Narcissa étaient parfaitement calés sur deux larges plateformes écaillées. Sous elle, la peau du dragon semblait s'être naturellement aplatie pour l'accueillir confortablement. Et devant elle se dressaient deux pics écaillés, tout indiqués pour s'y agripper fermement. La seule chose qui la gênait était sa robe étroite, qui commençait à se fendre sur le côté. Après un instant d'hésitation, elle tira fermement dessus. La robe se fendit jusqu'en haut de sa cuisse, et elle put s'installer plus commodément, un grand sourire aux lèvres. Ses mains étaient écorchées, ses bas étaient filés, mais elle se sentait parfaitement bien. « Tu peux redescendre maintenant, si tu le souhaites, » cria Vera 5 mètres plus bas. « Ou bien, tu peux lui demander de s'envoler. »«
Pardon ?» s'étrangla Lucius.
Balor perçut immédiatement l'excitation que Narcissa ressentit à cette idée. Il se redressa pour éprouver la stabilité de sa cavalière et regarda derrière son épaule pour chercher son assentiment. Narcissa lui adressa un petit signe de tête et Balor hocha la sienne, visiblement ravi.
« Reculez !»
ordonna Vera en tirant Fergus, Lucius et Daisy en arrière. Balor regarda autour de lui. Tout en hérissant tous les pics écaillés qui recouvraient son corps puissant, il poussa un rugissement de défi en direction des invités qui reculèrent tous d'un pas
et Narcissa éclata de rire. Balor se retourna à nouveau vers elle et il lui sembla qu'il lui faisait un clin d'œil. Puis il déploya ses ailes immenses et frappa le sol avec force en soulevant une nouvelle gerbe de terre et de gravier blanc. Narcissa se cramponna de toutes ses forces aux pics écaillés qu'elle tenait dans ses mains et le dragon s'envola en achevant de détruire le portail en fer forgé. Balor s'éloigna du sol à une vitesse stupéfiante. Au début, Narcissa n'osait pas regarder vers le bas. Le vent glacé de l'hiver sifflait dans ses oreilles et lui brûlait les joues. Elle était arc-boutée sur l'encolure de son dragon, ses jambes crispées autour de son dos puissant. Puis en constatant qu'elle était parfaitement stable, elle se détendit progressivement. Et alors qu'elle relâchait lentement sa prise, elle se mit à ressentir ce qu'elle avait ressenti en touchant la pierre verte qui se trouvait sur le front de son dragon. À nouveau, Balor semblait lire dans ses pensées et Narcissa dans les siennes. Ainsi, en regardant l'horizon, les champs alentours qui ressemblaient à des pièces de tissu cousues entre elles, les rubans lumineux que formaient les routes dans la lumière du soleil couchant, elle ne ressentit aucune peur, comme si elle aussi savait parfaitement voler. Narcissa avait l'impression de diluer ses inquiétudes dans l'insouciance que son dragon lui transmettait, et tous les questionnements qui tournoyaient dans sa tête semblaient avoir été balayés par le vent qui soufflait dans ses cheveux. Au bout de quelques minutes, elle entendit un bruit énorme s'approcher d'elle. « Si, si !» Daisy avait à son tour enfourché Ramia, sa dragonne violette, et effectuait déjà des boucles et des piquets avec une aisance stupéfiante. Elle passa au-dessus de Narcissa, puis en dessous, et les deux dragons tournoyèrent l'un autour de l'autre en poussant des rugissements joyeux. Les deux amis passèrent au-dessus d'un village et virent des moldus agiter des drapeaux anglais pour saluer ce qu'ils pensaient être une patrouille militaire. Narcissa ne put s'empêcher de sourire en pensant à la réaction des moldus s'ils s'apercevaient qu'ils saluaient deux dragons chevauchés par des jeunes femmes en robe de gala. Lorsqu'elle atterrit, ivre de bonheur, la nuit était déjà tombée. Prunas et les deux Lises avaient suspendu un peu partout de superbes guirlandes lumineuses et des lampions qui éclairaient le manoir et le jardin d'une douce lueur réconfortante. Daisy était déjà redescendue et quelques invités avaient surmonté leur peur pour s'approcher de Ramia. Vera faisait de grands gestes avec sa baguette pour remettre sur pied le portail en fer forgé et Albert était perché sur l'ive carbonisée dont les feuilles commençaient déjà à repousser. Narcissa aperçut Carla et Juliette qui se tenaient piteusement à l'écart. Leurs éventails étaient cassés, leurs coiffures défaites, et Narcissa en fut ravie. Lucius s'approcha avec une grosse couverture et la posa sur ses épaules. Il paraissait immensément soulagé que Narcissa soit de retour sur la terre ferme. « On dirait que tu as chevauché des dragons toute ta vie, » dit-il avec une pointe d'envie dans la voix. Radieuse et emportée par l'euphorie, Narcissa lui sauta au cou et l'embrassa tendrement. Autour d'eux, les invités applaudirent, toujours légèrement tendus mais enthousiastes. « Je t'apprendrai, c'est promis !» lui souffla-t-elle à l'oreille. Vera s'approcha d'eux, retira son chapeau orange vif, en sortit une petite boîte carrée couverte d'écailles et la lança à Narcissa qui faillit manquer de la rattraper. Narcissa ouvrit la boîte et en sortit un sifflet brillant qui lui renvoyait de beaux reflets verts. « Daisy en a un autre, tout à fait semblable, » dit Vera. « J'ai dressé vos dragons pour suivre le son de ces sifflets. Dès que tu voudras voir Balor, tu n'auras qu'à souffler dedans, et quelle que soit la distance à laquelle il sera, je te promets qu'il te trouvera. Je te conseille donc d'éviter de siffler quand tu es à l'intérieur du manoir. Abraxas n'apprécierait pas. » Elle rit et vint embrasser Narcissa. « Profite bien de ton mariage, » lui dit-elle. « Tu pars déjà ?» Je vais ramener les dragons sur la côte. Abraxas est totalement hystérique. Elle rit à nouveau et serra Narcissa contre elle. Profite bien de ta soirée, ma chérie, lui murmura Vera à l'oreille. Elle marqua une pause, luttant manifestement contre ses émotions. Lorsqu'elle s'écarta de sa filleule, ses yeux étaient brillants de larmes. Tu sais déjà à quel point ta mère était une amie chère à mes yeux, comme tu l'es pour Daisy. Lui dit-elle soudain, si bas que Narcissa était la seule à l'entendre. Je n'aurai jamais la prétention de la remplacer, mais je tenais à te rappeler que tu pourras toujours compter sur moi, quoi qu'il arrive. Sans laisser à Narcissa le temps de répondre, elle se tourna vers Lucius et lui dit en élevant la voix.
« Quant à toi, Lucius, ne t'avise pas de contrarier ma filleule préférée, ou bien tu auras affaire à moi. »
Puis elle renifla discrètement, se tamponna le coin des yeux, remit son chapeau et tourna les talons. Vera et Fergus s'écartèrent de la foule et les deux dragons les suivirent docilement. Ils montèrent sur leur dos avec aisance et s'envolèrent. Dès que les dragons eurent disparu derrière l'horizon, les invités reprirent leurs esprits un peu déboussolés. Puis, après quelques secondes, les exclamations commencèrent à fuser.
« Ça alors ? Mazette ! Des dragons ! Cette Veragoy, quelle classe !
Et comme Narcissa a du courage !
Quelle journée excitante ! À qui le dites-vous ?
Si j'avais su que ce mariage serait aussi remarquable, j'aurais acheté une nouvelle tenue chez Tissard et Brodette.
Vous avez vu la taille de ces créatures ? Et leurs yeux ? Et leurs griffes ? Pour ma part, je regardais surtout leurs crocs. »
Daisy s'approcha de Narcissa. Elle aussi avait déchiré sa robe, mais souriait de toutes ses dents. « Je pense qu'on a toutes les deux besoin de rafraîchir notre tenue, » rit Daisy en prenant Narcissa par la main. La foule s'écarta respectueusement devant elle pour les laisser passer, comme si leurs deux dragons leur avaient communiqué une partie de leur aura spectaculaire. En repassant devant la table où elle s'était assise à côté de son père, Narcissa se souvint du dialogue que l'arrivée des dragons avait interrompu.
« Tu n'as pas vu mon père ? » demanda-t-elle à Daisy en se retournant vers les invités qui les suivaient du regard.
« Il voulait me dire quelque chose tout à l'heure. »«
Papa est parti !»
dit une voix cassante à côté de la porte d'entrée. Bellatrix attendait Narcissa sur le perron, un verre de vin à la main. Et au vu de la manière dont elle titubait, ce n'était pas le premier qu'elle buvait. Elle semblait d'une humeur massacrante, encore davantage qu'au début de la cérémonie. Narcissa décida de l'ignorer, mais Bellatrix leur emboîta le pas.
« Tu n'es pas obligée de venir, je redescends dans une minute !»
lui dit sèchement Narcissa en montant les escaliers qui menaient vers l'aile ouest.
« Hors de question que je reste toute seule une seconde de plus !»
répliqua Bellatrix. Elle but son verre de vin d'un trait et le lança par-dessus la rampe. Le verre s'éclata en mille morceaux sur le tapis précieux du hall d'entrée.
« Bella !» gronda Narcissa. « c'est bon, je ramasserai !»
Elle les suivit jusqu'à la chambre de Narcissa, où elle se posta près de la fenêtre.
« Tu dois être contente ?»
dit Bellatrix sans cacher sa jalousie.
« Moi, si j'avais un dragon, je sais très bien ce que j'en ferais. J'irais brûler tous les villages moldus d'Angleterre. Quick !»
Et elle joignit le geste à la parole en passant un pouce sous sa gorge.
« Mais tu n'en as pas, et c'est tant mieux, » répliqua Narcissa. « Rodolphus n'est plus là ?»« Non, Abraxas l'a surpris en train de piquer des galions dans les caps qui étaient au vestiaire, alors il l'a chassé. »
« Et il a bien fait, » approuva Narcissa sur un ton de défi. Bellatrix émit un grognement désapprobateur, puis se tourna vers la fenêtre tout en continuant de fulminer. Narcissa s'assit devant son miroir et Daisy pansa le bras de son amie, là où le dragon l'avait éraflé. Puis elle prit sa baguette et la pointa vers la robe de Narcissa, à l'endroit où elle était déchirée.
« Texere reparo !»
dit-elle. Elle passa sa baguette le long de la déchirure et au fur et à mesure, les extrémités des fils de soie blanche se rejoignirent et se resserrèrent jusqu'à ce que le tissu retrouve son intégrité initiale. Puis Daisy fit de même pour les autres endroits abîmés de la robe et pour ses collants, et Narcissa lui adressa un sourire reconnaissant. Près de la fenêtre, Bellatrix continuait d'enrager.
« Regardez-moi toutes ces autruches endimanchées qui prétendent être des sangs purs. Nous avons essayé de les recruter, un par un. Mais tant qu'on fait de beaux mariages, et qu'on leur met des petits fours dans la bouche, ils ne bougeront pas le petit doigt pour nous aider. Avec l'âge, ils deviennent de plus en plus bêtes. Mais à ce stade, c'est inquiétant. »
Narcissa saisit le pinceau ovale qui était disposé près de ses accessoires de maquillage et remit sur ses joues un peu de poudre rosée discrètement pailletée. « Tu n'avais qu'à partir avec Rodolphus, si tu ne voulais pas rester, » dit-elle à sa sœur aînée. Bellatrix eut un petit rire satisfait, comme si elle avait souhaité que Narcissa la rejette, afin d'avoir une raison de plus pour s'indigner.
« C'est ça !» triompha-t-elle. « De toute manière, depuis le début, tu n'as qu'une envie, c'est de te débarrasser de moi. »« Bella, arrête. Tu es comme papa, finalement. Tu veux que tout soit bien poli, bien lisse et bien brillant. Et tout ce qui déborde, tout ce qui dérange vos petites habitudes bien réglées, vous vous en débarrassez, c'est ça ?
je vais te dire ce que j'en pense. Toi, Lucius, et tous ces imbéciles qui se pavanent là dehors, eh bien vous êtes encore pire que ces horribles moldus. C'est vous qui empêchez notre maître d'accéder au pouvoir, par votre réticence ridicule. Arrête un peu de dire des idioties, s'il te plaît, dit Narcissa. Tu crois que Lucius est la clé du bonheur parfait, n'est-ce pas, Sissi? Mais tu verras, un jour ou l'autre, c'est inévitable. Il te décevra, comme tout le monde. Et quand tu seras seule et triste, il ne faudra pas compter sur moi pour venir te réconforter.
Narcissa, ne l'écoute pas, dit Daisy. Tout ira bien, j'en suis sûre.
C'est ça, tout ira bien, répéta Bellatrix avec mauvaise humeur. Quand on a besoin de dire ça, c'est que justement, tout ne va pas bien. Je suis donc la seule à redouter ce qui va se passer? Tout le monde applaudit, tout le monde trouve ça formidable, mais c'est une catastrophe! Tu vas devenir comme maman, une bonne petite épouse, bien soumise, bien silencieuse. Va-t'en, Bella! La coupa Narcissa, qui sentait l'angoisse retomber de tout son poids sur sa poitrine. Va-t'en, s'il te plaît. Bellatrix regarda tour à tour Narcissa, puis Daisy, avec un air menaçant. Et subitement, Daisy sembla étonnamment anxieuse et soutint le regard de Bellatrix avec intensité, comme si elle la suppliait de taire quelque chose. Bellatrix prit une grande inspiration, ravala difficilement les mots durs qui semblaient vouloir franchir ses lèvres et marcha à grands pas vers la porte de la chambre. Mais alors qu'elle s'apprêtait à sortir de la pièce, elle se retourna et dit avec une colère mal contenue.
« Tu sais, Sissi, c'est à cause d'Andromeda si papa est parti !»
Narcissa tressaillit en entendant le prénom de leur sœur disparue et le manche en ivoire de son pinceau de maquillage lui échappa des mains.
« Que veux-tu dire ? » demanda-t-elle en ramassant son pinceau tout en essayant de feindre l'indifférence.
En se redressant, Narcissa vit Daisy regarder furtivement au dehors comme si elle craignait que la pièce n'explose et cherchait à calculer ses chances de survie si elle sautait immédiatement par la fenêtre. Bellatrix enchaîna, implacable.
C'est aussi à cause d'Andromeda s'il n'y avait que Rodolphus Lestrange qui voulait m'accompagner. Et c'est encore de sa faute si les gens nous regardaient de travers et si Carla et Juliette se sont moqués de toi.
Cette fois-ci, Narcissa se tourna vers Bellatrix pour la chasser définitivement. Mais elle n'en eut pas le temps.
Je ne sais pas comment tu peux ne pas être au courant, s'indigna Bellatrix. Et pourtant, tout le monde en parle. Mes amis se moquent de moi à longueur de journée.
Mais de quoi parles-tu à la fin ? Demanda Narcissa, qui sentait ses entrailles se contracter.
« Bellatrix ! La ferme, Daisy ! » cracha Bellatrix.
« Eh bien, Sissi, figure-toi qu'il y a 4 mois de ça, Andromeda nous a pondu un gosse avec son sang de bourbe de mari. Une immonde petite sang mêlée. Il paraît qu'elle est affreuse et que ses cheveux changent de couleur toutes les 2 minutes. C'est bien la preuve que leur union est contre nature. Voilà pourquoi tout le monde se moque de nous. Notre famille est souillée par cette mutante. « Par ce monstre !»
Narcissa eut l'impression de recevoir un seau d'eau glacée sur la tête. Elle voulut croire que c'était une mauvaise plaisanterie, mais l'expression catastrophée de Daisy ne pouvait pas être feinte.
« Daisy, tu le savais ?» lui demanda Narcissa d'une voix étranglée. Daisy hocha faiblement la tête. Son visage était devenu rouge écarlate. Il ne l'avait dit à personne. Mais Crabbe a forcé le département de l'administration magique pour voir si Ted et elle étaient bel et bien mariés. Il a trouvé l'acte de naissance et... La nouvelle s'est répandue hier dans la matinée.
« Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas te gâcher cette journée, » implora Daisy.
Bellatrix continuait, impitoyable. « Tu sais quel nom elle lui a donné, cette greluche ?» Avant que Narcissa n'ait pu ouvrir la bouche, Bellatrix asséna.
« Nymphadora ! Comme ta poupée quand tu étais petite. Tu vois, si elle voulait nous narguer, elle ne s'y prendrait pas autrement.
« Bellatrix, arrête !» supplia Daisy. « Parlons d'autre chose. » Mais Narcissa avait l'impression que la température de la pièce avait subitement chuté de plusieurs degrés.
« Sortez !» ordonna-t-elle glaciale.
« Si, si !»
« Sortez toutes les deux, immédiatement. »«
Qu'est-ce que tu peux être susceptible ?» râla Bellatrix en sortant, traînant ses froufrous noirs derrière elle. Daisy sortit à petits pas, les larmes aux yeux. Elle voulut dire quelque chose en fermant la porte, mais elle se ravisa et sortit. Narcissa resta immobile quelques instants. Puis d'un geste rageur, elle retira la fleur de lune qui se trouvait dans ses cheveux et la jeta sur la coiffeuse qui se trouvait devant elle. Elle regarda autour d'elle, à la recherche d'un objet à fracasser sur le sol, puis serra les poings,
incapable d'apaiser les pensées qui s'entrechoquaient furieusement dans sa tête. Narcissa pensait avoir pleinement réalisé qu'elle ne reverrait jamais Andromeda. Mais elle dut admettre qu'elle n'avait fait que chasser tant bien que mal cette idée de son esprit sans l'accepter le moins du monde. En réalité, depuis qu'Andromeda était partie, Narcissa nourrissait l'espoir infime que sa sœur n'était pas satisfaite de sa nouvelle vie, que tout comme elle, leur séparation l'empêchait d'être heureuse. Elle était même allée jusqu'à espérer que Ted l'avait déçue, qu'ils ne s'entendaient pas et qu'un jour, Andromeda reviendrait la tête basse en demandant pardon. Et au fond d'elle, malgré toute la colère qui l'habitait, Narcissa savait que si cela se produisait, elle l'accueillerait à bras ouverts et la pardonnerait aveuglément. Mais un nouvel événement venait de bouleverser la situation. Andromeda était désormais liée à Ted par un enfant. Un enfant, une petite fille que Narcissa imaginait déjà comme adorable, parfaite, faisant le bonheur de ses deux parents et que Narcissa interpréta immédiatement comme la preuve évidente qu'Andromeda était heureuse et comptait bien rester loin d'elle à jamais. Non, décidément, il n'y avait pas de lien plus sacré, plus indestructible que celui-ci. Tout retour en arrière était donc devenu impossible. Andromeda ne reviendrait plus. Plus jamais. Face à ce constat, Narcissa fut prise de vertige et eut l'impression que le grand manoir dans lequel elle habitait, son mariage, sa robe, tout n'était qu'une immense mascarade destinée à tromper le chagrin qui la dévorait. Elle s'interrogea sur ses propres motivations. Que cherchait-elle au juste ? À signifier à Andromeda qu'elle était heureuse sans elle, dans l'espoir que celle-ci éprouve des remords ? À satisfaire son père afin de rattraper les erreurs de ses deux sœurs aînées et qu'il revienne enfin sur les regrets qu'il avait jadis exprimés à propos de sa naissance ? À lui prouver que contrairement à ses sœurs, elle avait assimilé tout ce qu'il avait voulu leur apprendre ? À briser les chaînes de l'insupportable soumission financière qu'il avait accablée pendant toute son enfance ? Sans doute était-ce un peu de tout cela à la fois. Narcissa se demanda si c'était de bonnes raisons de se marier, mais ne réussit pas à obtenir de réponse claire. Elle en vint à se poser la question cruciale, qu'elle avait toujours refusé d'affronter. Aimait-elle réellement Lucius ? Lorsqu'elle était heureuse auprès de lui, était-ce réellement de l'amour, ou bien un mélange d'envie, d'admiration et de reconnaissance ? Elle fut incapable de trancher. Lorsque la porte de la pièce s'ouvrit et l'interrompit dans sa réflexion, Narcissa faillit envoyer promener le visiteur inopportun. Mais en voyant apparaître le sourire timide de son cousin Régulus, elle se ravisa et lui fit signe d'entrer. Daisy vient de me prévenir pour Andromeda, dit Régulus d'emblée, aussitôt après avoir refermé la porte. Il ne faut pas être triste. Tu auras bientôt une famille, toi aussi. Et n'en veux pas à Daisy, elle voulait bien faire, j'en suis sûre. Narcissa acquiesça, la gorge serrée, et sentit de grosses larmes rouler sur ses joues, sans pouvoir les en empêcher. J'ai un peu discuté de potions avec Lucius, continua Régulus. Il a l'air très intelligent, et je crois qu'il t'aime beaucoup. Narcissa esquissa un pâle sourire. Et j'ai parlé avec Bellatrix aussi. Elle a accepté de se calmer. Fatiguée de voir Sirius et ses parents s'entre-déchirer, Régulus avait développé une aversion pour le moindre conflit, et en conséquence, il avait acquis un talent particulier pour apaiser toutes sortes de tensions. Du haut de ses 12 ans, c'était un garçon sensible, redoutablement intelligent, et plus le temps passait, plus Narcissa ressentait de l'affection pour lui. « Rien ni personne ne pourrait remplacer Andromeda », songea-t-elle. Mais heureusement, il lui restait d'autres personnes qui lui étaient chères, et dorénavant, c'était à elle que Narcissa devait se consacrer. « Tu as besoin d'aide avec ta coiffure ?» demanda Régulus. « Tu veux que j'essaie ?» Narcissa hocha la tête. Régulus lui tendit un mouchoir brodé des armoiries black avec lequel Narcissa se tamponna les joues. Il se plaça derrière elle et de ses doigts minces et délicats, il saisit quelques mèches de cheveux, les tressa avec soin, puis prit la fleur de lune et la piqua à nouveau dans sa chevelure blonde. « Tu es ravissante, » assura Régulus. « Je suis sûre que tout ira bien. » Un peu rassérénée, Narcissa finit de se préparer pendant que Régulus lui racontait le début de sa deuxième année à Poudlard, qui se passait bien mieux que la première. James Potter avait dû considérer qu'il faisait une moins bonne cible que Severus Rogue, car il le tourmentait beaucoup moins souvent. Et à force de côtoyer Severus, Régulus s'était mis à exceller en potions et en défense contre les forces du mal et brillait tout autant que Sirius dans les autres matières. Il avait donc tout naturellement succédé à Lucius au rang d'élève favori de Slughorn, ce qui faisait la joie de ses parents. Nous avons eu quelques leçons de Quidditch et l'entraîneur dit que je suis assez agile pour être attrapeur, dit Régulus. Ce serait bien, tu ne penses pas ?
Ce serait formidable, Reggie.
Quand Régulus eut terminé, Narcissa décida de retourner auprès des invités. Elle crut un instant que le reste de la cérémonie se passerait bien, mais dès qu'elle fut sortie de sa chambre, malgré la main de Régulus serrée autour de la sienne, elle eut de nouveau l'impression d'étouffer. Lucius vint déposer un baiser sur ses lèvres, lui demanda rapidement si tout allait bien, mais il fut aussitôt emporté par la foule de convives qui ne voulaient pas le laisser s'échapper. Daisy n'osait plus ouvrir la bouche, et Bellatrix, totalement ivre, embarrassait les invités en leur parlant de Lord Voldemort avec emphase. Dans la foule, Narcissa se surprit à chercher les yeux de sa mère, puis ceux d'Andromeda, ce qui la consolait depuis toujours, et s'en voulut d'être faible à ce point. Il lui parut soudain évident que tout le monde agissait comme si ce mariage n'était rien qu'une bonne affaire, à tel point que Narcissa commençait à penser que c'était bel et bien le cas. On venait la féliciter d'avoir réussi à « mettre le grappin sur un Malfoy », ou bien on se contentait de la regarder comme une formidable acquisition. Lucius, lui, évoluait comme un poisson dans l'eau, discutant avec son élégance habituelle, gonflé d'orgueil par tous les hommes qui venaient lui taper sur l'épaule comme on féliciterait le nouveau propriétaire d'une belle maison. Narcissa n'avait jamais eu autant envie de s'enfuir, et ni les mets luxueux, ni la convoitise qu'elle lisait dans les regards de tous les notables qui étaient présents ne suffisaient à l'apaiser. Elle essayait désespérément de repenser à Vera et aux deux dragons afin de retrouver un peu de la joie qu'ils lui avaient procurée, mais elle n'y parvenait pas, comme si la révélation de Bellatrix avait voilé d'amertume tous les événements qui la précédaient. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Narcissa eut l'impression de se séparer d'elle-même et de laisser un automate danser, rire et remercier à sa place pendant qu'elle se contentait de regarder le spectacle à travers une vitre teintée. Le champagne dans les coupes en vermeil, le ballet d'oiseaux rares organisé par Abraxas Malfoy, les valses et les feux d'artifice se succédèrent sous ses yeux sans qu'elle puisse les apprécier une seule seconde. Lorsque les derniers invités partirent, la nuit était déjà bien avancée. Narcissa monta dans la chambre avec Lucius en s'efforçant de sourire. Abraxas Malfoy leur avait attribué une grande chambre de l'aile ouest, moins isolée que celle dans laquelle Narcissa avait dormi pendant quelques mois, juste au-dessus du salon au lustre de cristal qui servait de salle de danse. Sur le sol de la chambre se trouvait le plus beau tapis sur lequel Narcissa ait jamais marché. Et les murs étaient peints en trompe-l'œil avec des rameaux de vigne qui se balançaient paresseusement dans une brise imaginaire et montaient jusqu'à la voûte du plafond où une verrière peinte se mit à diffuser une lumière douce au moment où ils entrèrent dans la pièce. Le lit à baldaquin était immense, drapé de rideaux aux franges dorées, couvert d'édredons brodés et de coussins piqués de perles. Sur le lit, Narcissa aperçut deux tenues de nuit de la même couleur ambrée. « Regarde !» dit Lucius en lui tendant l'une d'elles. « Je l'ai faite faire pour toi. » À la vue de la superbe nuisette en satin qui lui était destinée, Narcissa sentit son angoisse augmenter d'un cran. Elle pensait que cette sensation oppressante s'éloignerait avec les invités. Mais au contraire, elle s'était encore amplifiée. Elle se mit à penser à sa mère et aux derniers mots qu'elle lui avait adressés.
« Sois forte », avait-elle dit. « Moi, ils m'ont tous brisée. »
Narcissa aurait alors tout donné pour pouvoir se réfugier dans ses bras et lui poser toutes les questions qui tournoyaient dans sa tête. Qu'avait ressenti sa mère le jour de son mariage ? Avait-elle aimé son mari au début ? Avait-elle été seulement heureuse à un seul instant dans leur grande maison de la colline d'Émeraude ? Et quand avait-elle réalisé qu'elle était prise au piège ? L'avait-on couverte de satin, elle aussi, pour mieux prendre possession d'elle ?
Narcissa, tout va bien ?
Narcissa était à bout de force. Dans son esprit, les visages de ceux qui l'avaient tour à tour inquiétée, rassurée, déçue, gâtée, embrassée ou abandonnée, se succédaient et se brouillaient entre eux, à tel point qu'elle était incapable de différencier ceux à qui elle en voulait de ceux envers qui elle était reconnaissante. Submergé et épuisé par le chassé-croisé des émotions contradictoires qu'il avait successivement traversées pendant cette interminable journée, Narcissa sentit ses yeux se remplir de larmes. Ses traits se crispèrent, elle enfouit son visage dans ses mains et se mit à pleurer. Aussitôt, Lucius ouvrit de grands yeux surpris et, sans rien dire, il la prit maladroitement dans ses bras et l'aida à s'installer sur le bord du lit avant de s'asseoir à côté d'elle. Narcissa sanglota contre lui pendant de longues minutes, sans pouvoir s'arrêter, pendant que Lucius passait un bras réconfortant autour de ses épaules. Au fur et à mesure que ses larmes coulaient sur ses joues et gouttaient sur sa robe, Narcissa se sentit légèrement apaisée. Lucius ne prononça pas un mot et lui laissa tout le temps dont elle avait besoin pour s'éclaircir les idées.
« Je suis désolée, » bafouilla-t-elle lorsque ses sanglots furent assez espacés pour lui permettre de parler.
« Ne sois pas désolée, et dis-moi plutôt ce qui ne va pas, » proposa doucement Lucius. Et enfin elle lui raconta, la voix entrecoupée de hoquets, qu'on l'avait regardée comme un trophée de chasse pendant toute la journée, qu'Andromeda avait eu un enfant et qu'elle ne la reverrait jamais, que Daisy le lui avait caché, que Bellatrix avait abandonné le rôle de grande sœur protectrice qu'elle avait toujours endossé, que la présence discrète et bienveillante de sa mère lui manquait terriblement. Que son père semblait évoluer dans un autre monde que le leur depuis l'affaire du collier d'opale et qu'en conséquence, elle se sentait horriblement abandonnée. Une fois qu'elle eut exprimé toutes ses désillusions sans être interrompue, Narcissa se sentit un peu mieux.
« Je me sens idiote, » conclut Narcissa en pleurant de plus belle.
« Honnêtement, c'est le dernier adjectif que j'emploierais pour te décrire, » sourit Lucius. « Je suis en train de gâcher notre nuit de noces.
Tu ne gâches rien du tout. » Ça n'a absolument aucune importance. »
Narcissa vit qu'il était sincère et lui en fut reconnaissante. En posant à nouveau sa tête sur l'épaule de Lucius, il lui vint à l'esprit que si quelqu'un savait mieux qu'elle ce que le mot « solitude » signifiait, c'était bien lui.
« Je suis désolée, » dit-elle encore.
« C'est moi qui suis désolée. Tout est allé trop vite, je n'aurais pas dû te presser autant. J'avais peur que tu retournes à Londres une fois que tu irais mieux et je ne voulais pas que tu partes. « Mais je m'en rends compte maintenant, je ne t'ai pas laissé assez de temps pour digérer tout ce qui t'est arrivé. »
Narcissa acquiesça. Elle n'était pas encore totalement réconfortée, mais elle se sentait assez en sécurité pour exprimer toutes les pensées qui lui traversaient l'esprit, même les plus enfantines.
« J'aurais aimé que maman soit là aujourd'hui, » chuchota-t-elle.
« Moi aussi. J'aurais aimé que nos deux mères soient là. Je suis sûre qu'elles auraient toutes les deux été très heureuses pour nous. »
Lucius attendit un peu, mais comme Narcissa ne disait plus rien, il poursuivit.
« En tout cas, sache que je suis désolée de la manière dont tout le monde t'a regardé aujourd'hui. Mais après tout, ce mariage n'était qu'une formalité. Je me devais de faire bonne figure, mais tu sais bien que moi, je ne vois pas les choses de cette manière. »
Narcissa s'essuya les joues d'un revers de main et reprit un peu sa respiration.
« Tu ne seras jamais vraiment à moi, comme l'entendaient la plupart de nos invités d'aujourd'hui quand ils venaient me féliciter. Je le sais depuis longtemps, et c'est précisément ce qui me plaît chez toi. Tu le sais bien, je ne veux pas d'une épouse docile et soumise. Ce serait tellement ennuyeux. Je te veux toi, et précisément parce que tu ne te laisses pas faire. Parce que, quand tu me regardes dans les yeux, sans une once de peur ou d'hypocrisie, j'ai l'impression que tu es la seule qui me regarde vraiment. »
« Narcissa, crois-moi, je n'ai jamais voulu de ton obéissance. Je veux que tu sois présente à mes côtés, pas à mes pieds. Et même si je sais que tu as des doutes parce que ta vie est terriblement compliquée. »
Lucius s'agenouilla devant elle.
« Je te le demande à nouveau, » dit-il solennellement. « Veux-tu vivre ici, avec moi? Veux-tu que tous les jours ressemblent aux derniers mois que nous venons de vivre ?»
Narcissa lui caressa la joue en reniflant. Qu'il était beau dans son costume.
Veux-tu de ma compagnie pour les belles choses et les épreuves à venir?
Ou, si tu préfères, dit-il avec un sourire, veux-tu de mon aide pour écraser Carla Avery, Juliette Selwyn et tous les imbéciles qui se mettront sur ton chemin?
Je préfère ça, dit Narcissa en souriant.
Progressivement, elle retrouva ses esprits. Décidément, elle l'avait à nouveau sous-estimé. Les invités avaient raison de dire qu'elle avait de la chance, même s'ils se trompaient sur le motif véritable de leur union. Lucius ne lui causerait aucun tort, et ne la délaisserait pas. Narcissa en était désormais convaincue. Après tout, il ne l'avait jamais déçue, et c'était une raison largement suffisante pour l'épouser.
« Alors ?» dit Lucius en lui embrassant les mains. « Tu sais, il est encore temps de partir en courant. »
« Alors je dis oui à nouveau, » répondit Narcissa, soulagée. Lucius se releva pour lui faire face et la regarda longuement. À ce moment-là, il n'avait plus rien du jeune homme ambitieux et calculateur que Narcissa avait vu évoluer pendant la cérémonie. Il passa lentement ses pouces sur les joues de Narcissa pour en essuyer les larmes et les traînées grises qu'elles avaient laissées derrière elle, puis il remit délicatement une mèche de ses cheveux blonds derrière son oreille. Lorsqu'il passa sa main dans sa nuque, Narcissa sentit des frissons agréables lui chatouiller la peau. Il l'embrassa sur les lèvres, sur ses joues humides, puis près de l'oreille, puis dans le cou, et Narcissa frissonna de nouveau avec plus d'intensité. Elle eut envie de l'imiter, de le goûter, et c'est ce qu'elle fit. À son tour, elle l'embrassa, caressa ses joues lisses, ses cheveux encore plus blonds que les siens, enfouit son visage dans son cou et l'embrassa encore. Très vite, en sentant la chaleur de Lucius descendre le long de son cou et ses mains glisser sur ses hanches, elle sentit palpiter au bas de son ventre l'envie irrépressible de se presser contre lui, le plus étroitement possible, de se fondre dans son inaltérable sérénité, de respirer et de sentir contre elle chaque parcelle de sa peau lisse et délicatement parfumée. Son beau costume gris, qu'elle avait admiré un instant plus tôt, lui sembla soudain parfaitement inutile et même encombrant. Et sans trop réfléchir à ce qu'elle faisait, les yeux encore rougis, elle dénoua la cravate de Lucius et commença à déboutonner sa chemise.
« Dis donc, tu récupères vite, » murmura Lucius avec un grand sourire.
Narcissa répondit en se pressant encore davantage contre lui. Lucius l'embrassa à nouveau dans le cou, puis dans le décolleté. Ses doigts effleurèrent le bout de ses seins et Narcissa se laissa fondre dans ses bras. Toute sa tristesse s'était envolée. Elle ne pensait plus qu'à Lucius, à ses mains sur elle, à ses lèvres, à leur corps qui se mêlait plus étroitement que jamais, à cette envie irrésistible, impérieuse de se délester de tous ces textiles embarrassants qui s'interposaient entre eux. En face d'elle, Lucius connaissait visiblement le même égarement. Fébrile, les jambes cotonneuses, le cœur en fusion, ils se retirèrent leurs vêtements un peu maladroitement, frissonnant de plaisir à chaque centimètre de peau nue exposée aux baisers de l'autre et à la fraîcheur de cette nuit de décembre. Narcissa ne ressentit aucune gêne en se dévoilant, amusée par l'émerveillement avec lequel Lucius découvrait ses seins raffermis par le froid et le désir, puis son ventre, et enfin la toison qui estompait son entrejambe. Son corps à lui était semblable à ce que Narcissa avait imaginé, mince, pâle, tendre, recouvert d'un fin duvet blond. À 18 et 19 ans, Lucius et Narcissa n'avaient absolument aucune idée de la manière dont il fallait s'y prendre. Ils procédèrent donc laborieusement, se découvrant mutuellement, soupirant de plaisir pour guider les tâtonnements hésitants de l'autre. Et pendant qu'ils s'enlaçaient sur les édredons moelleux, aux quatre coins du Royaume-Uni, les invités rentraient chez eux, repus et fourbus, la rétine encore imprimée de blanc et d'or, les paroles du serment solennel résonnant encore une fois à leurs oreilles. Pour le beau et le laid, le meilleur et le pire, dans la gloire et dans la déchéance, dans la fortune et la ruine, et jusqu'à ce que la mort nous sépare.